La Commission électorale nationale indépendante a lancé le 30 avril l'identification et l'enrôlement des électeurs dans les provinces des aires opérationnelles 3 et 4. Ces opérations se déroulent dans les centres d'inscription implantés dans les groupements et communes. Cette opération a commencé d'abord dans les chefs-lieux des provinces concernées et s'étend progressivement dans les autres villes et territoires. Quelle est la procédure à suivre par l'électeur dans un centre d'inscription? Pour répondre à cette question, Radio Okapi reçoit aujourd'hui Monsieur Désiré Molekela, directeur chargé de la sensibilisation, éducation civique et électorale à la CENI. Monsieur Désiré, que doit faire, la première question est de savoir, que doit faire le candidat électeur à son arrivée au centre d'inscription?
Lorsqu'il arrive au centre d'inscription, le candidat électeur se place sur une file d'attente devant le CI parce que c'est pour qu'il y ait un peu plus d'ordre. Chacun se met suivant son ordre d'arrivée. Ensuite, quand on ouvre le centre d'inscription pour le président, chaque candidat électeur entre dans le centre d'inscription l'un après l'autre à l'appel du préposé polyvalent.
Et c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par préposé polyvalent, hein, qui fixe l'ordre d'entrée dans les centres d'inscription?
Oui, lui en fait c'est un agent qui se trouve en dehors du centre d'inscription. Il est là pour accueillir l'électeur, vérifier effectivement s'il a des pièces. S'il n'a pas de pièces, ça ne vaut pas la peine, il va le renvoyer. S'il a une pièce, alors il le fait entrer dans le centre d'inscription. C'est ça le rôle du préposé polyvalent.
D'accord. Alors, pour ceux qui arrivent après la première distribution des jetons par le président du CI, que doivent-ils faire?
Bon, d'abord, il faut d'abord parler de ceux qui arrivent avant qu'on ouvre le centre d'inscription. À ce moment-là, le président du centre d'inscription sort et distribue les jetons aux requérants déjà dans la file d'attente, en leur remontant le numéro correspondant à l'heure d'arrivée à partir de 1, etc. Alors, cette distribution tient compte de la capacité d'absorption du centre d'inscription, qui est chaque jour estimé à une moyenne de 605 requérants, par kit et par jour. S'il y a deux kits, peut-être, là, on peut avoir peut-être 65 fois 2. C'est ça la capacité d'absorption d'un centre d'inscription quand il commence. Le proposé polyvalent, alors, va appeler les numéros de jetons distribués par ordre croissant. Et lui, il oriente les requérants concernés vers les proposants d'identification dans son inscription.
Alors, pour ceux qui arrivent après la première distribution des jetons, comment ça va se passer?
Bon, après cette distribution des jetons, ceux qui ont reçu les 105 premiers jetons se mettent alors dans une deuxième rangée qui est distincte de la première, c'est-à-dire de celle où les candidats ont des jetons. Alors, le PC, à tout moment, quand il sent que la file a déjà avancé, il distribue alors à chaque requérant de la deuxième rangée un jeton selon l'ordre d'arrivée au centre d'inscription.
Vous avez des questions et préoccupations, appelez au 081-890-63-94. N'attendez pas les dernières minutes, appelez déjà pour poser vos questions à notre invité. Alors, qui reçoit les candidats électeurs une fois entrés dans les centres d'inscription, Monsieur Désiré?
Ah, là, c'est le proposant d'identification qui accueille le candidat à l'intérieur du centre d'inscription. Celui-ci, le candidat, remet la pièce d'identité, s'il en a, pour qu'il vérifie qu'effectivement, il a l'âge, et il est congolais, il a une pièce qui est reconnue ainsi par la loi. Alors, si la pièce est conforme, il remplit la fiche d'identification, qu'on appelle en termes techniques F05. C'est une fiche d'identification où on met toutes les informations que lui fournit le requérant. Alors, le nom, le prénom, le poste, nom de parents, bref, un certain nombre d'informations qu'on doit avoir sur le requérant. Alors, il vérifie avec le requérant tout ce qui est sur la fiche. C'est pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Parce qu'après, la fiche va aller vers celui qui saisit. Donc, il faut déjà qu'au départ, le préposé d'identification vérifie avec le requérant si les informations sur la fiche sont exactes. Alors, il fait signer par le requérant la fiche, comme quoi il est d'accord avec le contenu de cette fiche-là. Lui aussi, il met son nom et il met sa signature. Alors, il remet au requérant la fiche d'identification qui est dûment remplie. Et en plus de la fiche, alors, on agrafe l'ancienne carte d'électeur. Ou alors, si c'est un candidat qui n'a pas de pièce d'identité et qui est venu avec une déclaration de témoignage, on remet la déclaration, on le fait par trois témoins majeurs qui sont dans le centre d'inscription et qui est signé par l'officier d'état civil, chef de quartier ou chef de village ou son délégué. Ainsi, avec ce document, maintenant, il oriente le candidat vers l'opérateur des saisies pour l'étape suivante.
D'accord. Donc, il faut commencer d'abord par remplir la fiche. La fiche au niveau du centre. Comment vous appelez cette fiche-là?
F05. Parce qu'il y a beaucoup de fiches. Alors, on a mis 01, 02. Donc, c'est la fiche la plus importante parce que c'est celle-là, c'est pas cette fiche-là qu'on va maintenant encoder les informations dans l'ordinateur.
Alors, quelles sont les tâches que remplit l'opérateur des saisies, Monsieur Désiré?
Bon, l'opérateur de saisie, lui, en fait, il est devant son ordinateur, son laptop. Il reçoit la fiche d'identification. Alors, il regarde. Si, par exemple, est attaché à l'ancienne carte d'électeur, c'est qu'ils sont anciens électeurs. Dans ce cas-là, alors, il recherche dans les données. Dans la base de données, c'est plus facile. Et on peut seulement corriger. Ou à défaut, alors, c'est un nouvel électeur. Alors, il remplit, il saisit, en fait, toutes les informations qu'il y a sur la fiche d'identification. Une fois que c'est terminé, il prend alors la photo du requérant. Il capture les empreintes digitales des 10 doigts de la main. Maintenant, ce ne sera pas 2 doigts, mais 10 doigts de la main. Il scanne la fiche d'identification. Alors, il vérifie encore une fois avec le requérant si les informations qu'il a saisies sont correctes. Après ça, alors, il imprime la carte de lecteur, il remet ça au candidat et maintenant le dirige vers le président du centre d'inscription qui va en fait authentifier la carte de lecteur.
Voilà, c'est la procédure à suivre dans un centre d'inscription et c'est pas fini. Je crois que la procédure est encore longue.
Oui, disons qu'elle est encore longue.
Alors après cette étape-là, quelle est l'étape suivante?
Bon, en fait, je voulais seulement préciser avant l'étape suivante, c'est que avant que l'OPS, parce qu'il ne puisse prendre la photo, il doit vérifier à ce que le requérant n'ait pas d'objet qui puisse modifier sa physionomie. Donc, on demande au requérant de ne pas mettre de foulard. Les lunettes, on peut tolérer, à la limite. Pas de chapeau, parce que ça peut déformer la physionomie de quelqu'un. Cependant, de manière exceptionnelle, on tolère ce que certaines catégories de personnes, en raison de leur statut, puissent garder, par exemple, leur couvre-chef ou symbole ancestral pendant la capture de la photo. Généralement, on ne met rien, mais il y a des exceptions. En l'occurrence, les chefs des autorités religieuses, comme les évêques et les imams, qui souvent, arborent certains attributs.
Les chefs coutumiers.
Les chefs coutumiers aussi, évidemment, ainsi que les religieuses. Dans ce cas-là, on accepte. Mais ceux qui portent des lunettes ne sont pas obligés de les porter. Ils peuvent les enlever si ça peut déranger. Alors, pour ceux qui en portent, seuls sont autorisés les lunettes dont les verres ne sont pas teintés, ni colorés et sans reflet.
Après avoir terminé avec le préposé à l'identification et avec l'OPES, le requérant se présente alors devant le président du centre d'inscription.
Effectivement, c'est la dernière personne qui reçoit le requérant de son inscription. Celui-ci alors vérifie une fois de plus, puisqu'à chaque étape on vérifie qu'il n'y a pas d'erreur avec le requérant, la conformité des données de la carte avec celles qui sont sur la fiche d'identification. Si, par exemple, le requérant estime qu'on a fait une erreur, par exemple, sur son nom, son poste nom, à cette étape-là, on va le renvoyer chez l'OPS pour qu'on puisse corriger. Parce qu'une fois sorti qu'il y a une erreur, il devra revenir. Alors, il faut en profiter pendant qu'on est dans le centre que l'électeur lise bien la carte d'électeur, qu'il voit s'il n'a pas de faute.
Et qu'il corrige sur le champ.
Voilà, il peut corriger sur le champ, c'est à son avantage.
Oui.
Dans ce cas-là, si c'est correct, alors, le président signe la fiche d'identification de l'électeur, signe également la carte d'électeur, plastifie la carte et remet la carte au requérant. Pour le requérant, l'opération est finie. On l'invite alors à sortir du centre d'inscription.
Bienvenue dans ce journal des élections où nous recevons aujourd'hui M. Désiré Molekela qui est en charge de la sensibilisation au niveau de la CENI. Vous avez des questions et préoccupations par rapport à ce processus d'enrôlement. Appelez-nous au 081-890-63-94. Aujourd'hui, nous parlons particulièrement de la procédure à suivre dans un centre d'inscription pour l'identification et l'enrôlement des électeurs. Pour participer, appelez au 081-890-63-94. 081-890-63-94.
Congolaise, Congolais, l'enrôlement des électeurs tire à sa fin. Allez-y vite vous faire enrôler dans le centre d'inscription de la CENI le plus proche de votre maison, dans votre commune ou dans votre groupement.
Comment s'enrôler?
C'est facile. Il suffit de vous rendre au centre d'inscription le plus proche, muni de votre pièce d'identité ou tout autre document officiel autorisé.
J'ai ma nouvelle carte d'électeur, je voterai, et toi?
Revenons un peu sur les jetons qui est remis au requérant qui est sur la file d'attente. Comment se présentent ces jetons, Monsieur Désiré?
Oui, les premiers jours d'ouverture du CI quand lance l'opération, l'opérateur de saisie prépare les jetons en coupant tout simplement des papiers duplicateurs A4 en 8 tranches, faisant chacun donc un jeton. Et les autres jours, on le fait avec les débris des cartes d'électeurs, parce que c'est un peu plus solide, c'est le reste des cartes d'électeurs. Après avoir pacifié par le président, il reste des débris des cartes d'électeurs, on le fait avec ces débris-là. Ces débris sont également coupés en 4 tranches, donnant chacun un jeton. Alors, chaque jeton porte le code du CI. le numéro d'ordre, 1, 2, 3, jusqu'à 65 ou plus, et la date du jour de la distribution. Et le jeton doit nécessairement porter la signature du président du centre d'inscription.
Est-ce qu'un requérant qui a déjà reçu un jeton peut partir et revenir quand il veut pour être reçu dans le centre d'inscription?
Bon, je dirais oui, mais je dirais plutôt non. Puisque le jeton est valable seulement pendant un jour. Bon, si par exemple quelqu'un est sur la file, il est, disons, 16e, il reçoit son jeton, il dit, bon, je vais vite aller à la maison, faire une course, et puis je vais revenir.
Et puis je vais revenir,
bon.
Ouais.
S'il revient pendant qu'on n'a pas encore appelé, c'est bon. Il rentre dans la ligne, il est appelé. Mais s'il revient après qu'on a appelé son numéro, il est obligé d'aller en queue. Parce qu'on va pas l'attendre.
Parce que certains vont venir, non, moi j'avais le jeton numéro 16, même si on a dépassé, mais au moins, comprenez.
Ah non, il faut être sur la file.
Sinon, si alors, vous n'êtes plus là, c'est fini.
On vous met derrière. Mais par contre, ça peut arriver aussi. Si un requérant qui a son numéro est parti, et à la fermeture du seuil le soir n'est pas revenu, en tout cas, son jeton n'est plus valable du tout pour le jour suivant. Le requérant devra alors demander un nouveau jeton le lendemain matin quand il sera sur la file. Par ailleurs, un jeton qui est ratureux, surchargé, perd sa valeur. Il faut d'abord qu'on puisse falsifier le numéro, les petits malins. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de rature ou de surcharge sur le jeton. Mais, si, en cas de dysfonctionnement du centre d'inscription, qui a fait en sorte qu'on n'a pas épuisé tous les tenteurs de jetons qui sont sur la ligne, donc ce n'est pas la faute des candidats, ou pour une raison ou pour une autre, lenteur dans le traitement, une panne, intempérie, insécurité, le centre est obligé de fermer, alors qu'il y a encore des requérants du jour qui ont reçu leur jeton qui n'ont pas été reçus. Le président du centre alors leur demande de revenir le lendemain matin, suivant le jour, prêtre prise en compte en priorité, mais à condition qu'ils soient présents le matin au centre d'inscription. S'ils viennent l'après-midi, bon, ils ne pourront pas avoir le jeton.
Le matin déjà, l'ouverture, c'est à quelle heure à l'ouverture, l'heure d'ouverture des centres, hein?
L'heure d'ouverture, c'est 6h.
À 6h déjà.
Et on ferme à 7h. Donc il faut qu'ils soient là avant 6h. Dans ce cas-là, alors, le président... le préposé à l'identification, le jour où on a fermé, prend ses jetons et les contresignes. Parce qu'il faut quand même qu'on sache qu'effectivement, ils étaient là la veille alors.
Oui.
Juste vers maintenant, quand ils vont venir devant la file, s'ils sont là le matin, le préposé sont alors distribuer le jeton du jour en priorité aux requérants qui étaient présents la veille, mais qui n'ont pas pu entrer dans son inscription. Alors, il leur donne un jeton signé par lui, il récupère le jeton qui a été contresigné hier par les proposants d'identification.
Bien, on va accueillir deux auditeurs qui sont en ligne. Emmanuel nous appelle de Guémena et Paul depuis Chilengue. Emmanuel, bonjour. Quelle est votre question?
Bonjour, merci de l'opportunité que vous m'offrez. J'ai très bien suivi, bien que dans notre province, l'enrôlement avait eu lieu, mais j'ai quand même quelques préoccupations.
Lesquelles?
D'abord, la procédure semble être trop longue. Alors, j'aimerais savoir combien de temps peut prendre l'opération dans l'enrôlement d'un requérant si l'OPS est vraiment performant. Et puis, la deuxième question, c'est par rapport à un requérant qui vient de s'enrôler, mais subitement, au niveau de son centre d'inscription, il y a pénurie de cartes. Alors, à ce moment-ci, il y a pénurie des cartes avant 12 heures. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Parce qu'ils sont nombreux. Faut-il commencer à donner les jetons le matin ou bien il y a un moment où on peut donner les jetons? Puisque en l'écoutant, les jetons se servent vers la fin pour les requérants qui sont encore sur la file d'attente.
D'accord. Merci Emmanuel. Paul, vous êtes à Chilengue. Bonjour et quelle est votre préoccupation?
Ok, merci. Bonjour, monsieur Judy. Je suis à Chilengue, effectivement.
Dommage. On l'a perdu. Il va certainement nous rappeler. Désolé, Paul, rappelez-nous. Peut-être Tati Mapougou va s'en occuper. Vous avez aussi des questions, n'attendez pas les dernières minutes. Appelez au 081-890-63-94. Monsieur Désiré, vous avez la parole pour répondre à Emmanuel Deguemena.
D'abord, il a demandé le temps que prend un requérant dans le centre d'inscription si l'opérateur de saisie est performant. En principe, si on peut calculer, je n'ai pas un chiffre comme ça en tête, on peut supposer que devant le préposé à l'identification, il peut faire peut-être 5 à 10 minutes, si du moins le requérant a tous les éléments d'information dont on a besoin.
Donc pour c'est que important. Ça aille vite, il faut avoir toutes les informations.
Voilà. Nom, prénom, adresse, nom des parents et surtout province, territoire, village d'origine. Comme ça va assez rapidement.
Vous n'allez pas perdre beaucoup de temps. Ouais.
Beaucoup de temps. Et surtout si c'est l'ancien électeur et que l'OPS vérifie dans la base de données, il a toutes les informations. Mmh. Il va seulement corriger, s'il a changé d'adresse ou quoi, et puis on lui prend la photo. Donc on ne prendra pas beaucoup de temps, 5 à 10 minutes au niveau du pays. On peut prendre aussi à peu près 5 à 10 minutes au niveau de l'OPS. Au niveau du président, ce n'est pas tellement beaucoup, c'est juste pour vérifier, signer, pacifier, partir. Donc on peut estimer que 10 minutes, un quart d'heure, si tout le monde est performant, et si l'électeur a toutes les informations, on peut terminer avec un électeur dans le centre d'inscription.
Voilà, d'accord.
Première préoccupation.
Alors, il dit ici, vous venez vous inscrire, mais il y a pénurie des cartes d'électeurs avant 12 heures. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Bon, d'abord, généralement, le centre d'inscription est pourvu de suffisamment de cartes d'électeurs. Pour commencer, on donne 2000 cartes d'électeurs. Et au fur et à mesure qu'on gère les cartes d'électeurs, si les personnes sont en inscription, parce que chaque soir, ils vérifient, ils doivent faire un compte-rendu de ce qui s'est passé pendant la journée. S'ils se rendent compte que les cartes diminuent, et en fonction du nombre d'électeurs qu'ils reçoivent par jour, ils peuvent d'ores et déjà signaler au niveau du contrôleur technique territorial, au niveau de l'antenne, pour qu'on puisse déjà penser à l'approvisionner. Donc, c'est rare qu'il y ait vraiment pénurie comme ça.
Voilà.
Oui. Généralement, on prévoit ça.
Dès que les stocks diminuent, on signale déjà
pour qu'on puisse approvisionner. Et comme on a des stocks de cartes d'électeurs dans les antennes, il y a toujours moyen de pouvoir approvisionner pour qu'on puisse avoir d'arrêt dans le centre d'inscription.
Est-ce que les cas de pénurie sont déjà arrivés? Peut-être s'il pose la question, c'est que c'est déjà arrivé une fois là à Guémena.
Oui, c'est possible. C'est-à-dire qu'en fait, tout dépend de l'endroit où situe le centre d'inscription. Par exemple, dans une ville, il n'y a pas de problème. Si les cartes, s'il y a une pénurie qui manque, l'antenne peut envoyer un véhicule arriver. Surtout pour les ceux qui sont dans les villages les plus reculés, où parfois il n'y a même pas de moyen pour aller par route, il faut aller peut-être
enclavées.
Oui. Là, c'est comme ça qu'on demande à ce que le président du centre d'inscription puisse vraiment être prévenant. Dès qu'il sent que ça diminue, il calcule, puisque lui, quand il a pris son équipement, il a fait le trajet pour aller au centre d'inscription à partir du centre d'information. Il connaît plus ou moins le nombre de jours qu'il faut faire. Donc, en fonction de ça, il peut déjà savoir que, voilà, dans 2 ou 3 jours, je serai en pénurie. Il prévient déjà. À ce moment-là, on prend disposition pour lui apporter les cartes.
D'accord. De quoi est composé un kit d'enrôlement, M. Désiré Moulekela?
Bon, le kit d'enrôlement est composé d'un laptop. C'est un ordinateur portable, donc utilise l'opérateur de saisie. Il y a une imprimante pour imprimer notamment la carte d'électeur. Une caméra pour la capture de la photo. Lecteur d'empreintes digitales. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait qu'on prenne
les 10 doigts. Les empreintes des 10 doigts.
Voilà. Il y a batterie pour alimenter, évidemment, le laptop, rallonge, clé USB. C'est important parce qu'on doit absolument enregistrer toutes les données. Et cette fois-ci, comme on ne veut pas qu'il y ait d'OMI, ceux qui ont des cartes ne sont pas dans la base de données, on fait en sorte que toute personne qui a enregistré, qu'on puisse remonter ces informations au niveau central pour centralisation. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on donne 2000 cartes de lecteurs vierges par kit d'enrôlement. Donc c'est suffisant, au fur et à mesure qu'on avance, le pays peut apprécier. Il y a également 2000 plastiques pour plastifier dans les cartes de lecteurs. Il y a des cartouches noires, des cartouches couleur pour l'impression de la carte. Un disque dur externe. Donc, vous voyez les précautions que prend l'enseigne pour ne pas perdre les données. Les disques d'abord du laptop, disques externes, et 3 clés USB pour enregistrer toutes les informations qui sont enregistrées pendant la journée. Et également un scanner pour numériser les documents, toile de fond pour la photo, et un modem GSM.
Et un modem GSM. On va accueillir Sam qui nous appelle des Kananga. Bonjour Sam.
Bonjour monsieur.
Quelle est votre préoccupation?
J'ai une question à poser à l'invité.
Oui. Veuillez réduire le volume de votre récepteur, s'il vous plaît. On a un retour ici à l'antenne. Veuillez vous éloigner ou soit réduire le volume de la radio.
Je suis un peu éloigné.
D'accord, allez-y.
Je voulais poser la question à l'invité. Est-ce que quelqu'un qui a été inscrit, enregistré dans un centre d'inscription ailleurs et qui a perdu sa carte, est-ce qu'il peut aller dans un autre centre pour se faire inscrire de nouveau?
D'accord, monsieur Désiré.
Et la deuxième question, s'il vous plaît.
Oui.
Je voulais aussi demander, est-ce que quelqu'un qui a été inscrit dans un centre, dans un territoire, est-ce que dans les mêmes territoires, s'il s'est fait inscrire pour la seconde fois, il sera identifié comme quelqu'un qui a été déjà inscrit?
Dans le même territoire. Mais pourquoi il va s'inscrire 2 fois?
Bon, peut-être dans une autre province. Prenons une autre province.
D'accord, monsieur Désiré Moulekela.
Bon, d'abord, quand on est inscrit dans un centre d'inscription et que pendant l'opération en cours, comme ça dure 90 jours, ça peut arriver, on peut perdre sa carte, ça peut être brûlé, il faut rentrer dans le même centre d'inscription avec un PV de perte de pièces d'identité. Et à ce moment-là, on remplit une fiche et on vérifie effectivement, on vous donne alors un duplicata. Donc, ce n'est pas appeler un autre centre d'inscription pour vous inscrire, parce que là, ça sera comme un double enrôlement. Mmh. Or, on s'enrôle qu'une seule fois. Et celui qui perd sa carte d'un centre d'inscription, il va dans un autre centre d'inscription, on va en fait recommencer l'inscription. Il aura une carte normale, alors que s'il rentre là où il s'est fait enrôler, il aura un duplicata. Il n'y aura pas de double enrôlement. Mmh. Le danger, c'est que quand on s'enrôle doublement, quand on va synthétiser les résultats, on va traquer le doublon, on va pour le poursuivre en justice. Et puis, en fait, la CENI va rayer la première inscription, ne gardera que la dernière. Mmh. Donc, on n'est pas conseillé, quand on perd sa carte d'électeur, pendant les opérations, d'aller dans notre centre d'inscription. Alors, la deuxième question qu'il a posée, c'est...
Il s'est enrôlé dans une province, il va ailleurs.
Il va ailleurs. Encore, c'est strictement interdit. On s'enrôle une seule fois, un point et tout. Et s'il y a des malins il y en a qui le font, surtout des jeunes, soit pour défier, ils changent de nom.
Pour s'amuser, oui.
Pour s'amuser, pour avoir deux, trois cartes, ça sert à rien. Mmh. On a une seule carte, vaut mieux bien la conserver. Parce que quand vous êtes enrôlé deux, trois fois, quand on va centraliser, on va nécessairement découvrir par les empreintes digitales. Même si vous changez de physionomie, les empreintes dans le monde, chacun a.
C'est unique.
C'est unique. Mmh. On n'a pas deux personnes qui ont les mêmes empreintes. Donc, on va le dénicher tout le temps. Donc, ça ne sert à rien. Autant se faire enrôler une seule fois et bien garder sa carte d'électeur.
Charles, vous êtes à Kikwit. Bonjour. Et quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation, c'est celle-ci. Oui. Pour la première carte que j'ai obtenue en 2006, il y avait une erreur d'orthographe sur ma carte. Pendant que les noms étaient bel et bien écrits sur mon diplôme, différent vraiment de ce que j'avais écrit. Alors j'ai toujours eu des problèmes quelquefois quand il faut aller quelque part pour retirer soit un peu d'argent ou quoi que ce soit.
Mais pourquoi vous n'avez pas, les jours où vous êtes inscrit, pourquoi vous n'avez pas vérifié sur place la manière dont on avait écrit votre nom?
Non, exactement, c'était à l'intérieur, vous voyez, à l'intérieur du pays, jusqu'à on allait vers le centre. Et les gens allaient en désordre, beaucoup de gens, et puis les gens qui étaient là ne recevaient pas en ordre. Il y avait beaucoup de secousses là. Ceux qui étaient là étaient obligés de vite faire et partir. C'est comme ça que je me suis retrouvé avec une erreur déjà commise sur la carte. Et maintenant, que pourrais-je faire? C'est juste une erreur d'orthographe. À la fin, au lieu d'un U, mais c'est un double, au lieu d'un double V, mais on a écrit un U tout simplement. Ce sont là les erreurs qui font problème, mais quand peut-être pour se présenter quelque part, on dit qu'il y a un peu d'orthographe. Un peu d'orthographe modifié, pardon.
D'accord. Monsieur Désiré, qu'est-ce que Charles peut faire?
Bon, ça dit que votre ancienne carte, quand vous irez dans le centre d'inscription, vous allez présenter ça comme pièce, parce que vous êtes dans la base de données. On va vérifier. À ce moment-là, vous avez le pouvoir de pouvoir modifier l'orthographe de votre nom. On a tout dans la base de données, mais on peut modifier le nom.
Il doit retourner là où il s'était fait enrôler.
Oui, effectivement, là, il s'est fait enrôler. Mmh. Bon, si peut-être il a déménagé, c'est pas un problème. Il va toujours présenter son ancienne carte. Si c'est dans la base de données, on va vérifier. Il va demander à l'opérateur de saisir. Et d'abord au niveau du proposal d'identification, et après aussi de corriger son nom. Dans ce cas-là, alors on va corriger son nom, on va lui prendre une photo, on va imprimer une carte de lecteur qui sera maintenant correcte avec les noms et avec l'orthographe qu'il faut.
Donc c'est possible de corriger toutes ces erreurs-là.
Absolument, absolument. Mm.
André nous appelle des Kananga. Bonjour André, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bonjour, c'est le directeur André Kambal, je suis à Kananga, précisément à Toubouloukou.
Oui, directeur André.
Ok, j'aimerais poser la question parce que ici à Kananga, il y a trop de problèmes et nous trouvons qu'il y a d'autres gens qui quittent ici Kananga vers un bougement pour s'enrouler. Mmh. Mais quel sera un peu le sort de notre province?
Les gens qui quittent Kananga pour aller s'enrouler en bougement.
Ah oui.
Oui. Bon, sûrement peut-être à cause de l'insécurité qu'il y a là-bas, les opérations n'ont pas encore démarré. Monsieur Désiré, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Effectivement, pour le Kassai et le Kassai central, on n'a pas commencé l'opération en cause de l'insécurité. Et je voulais rappeler d'ailleurs qu'on a agressé, même tué un chef d'antenne de la CENI. Donc la CENI va de toute façon faire l'enrôlement de la CENI de province-là lorsque la sécurité va régner. Alors, le conseil que je peux donner, autant attendre que l'opération vienne chez vous. Parce que un habitant de Kananga, qui veut absolument avoir le nouvel carte d'électeur, va en Mbujimayi, c'est bien. Mais le principe, c'est que on vote là où c'est fait enrôler. Donc, le nom sortira en Mbujimayi. Donc, autant patienter, attendre. dès que le gouvernement, qui est en train de faire des efforts pour sécuriser les deux provinces, la CENI ira pour enregistrer les ressortissants des deux provinces.
Mmh. Donc, c'est pas conseillé de se déplacer et d'aller se faire enrôler en Bujumbura. Donc, autant, vaut mieux attendre à Kananga.
Effectivement. D'ailleurs, on conseille aux gens, on dit, enrôlez-vous dans le CI proche de votre habitation, dans votre commune ou groupement de résidence. Parce que vous voterez là-bas, demain, quand il y aura les élections.
Pourquoi la CENI affiche-t-elle les listes des enrôlés devant le centre d'inscription, Monsieur Désiré?
Oui, effectivement, la CENI affiche tous les jours les listes de ceux qui sont enrôlés la veille, avant l'ouverture du CI, devant le CI dans un endroit protégé et à l'abri des intempéries. Pourquoi? Et ces listes-là restent affichées pendant 7 jours. Ce qui peut permettre, c'est qu'il y ait des réclamations de la part des électeurs. Donc, les requérants qui ont reçu leur carte de lecteur sont invités à passer, vérifier si ils ont été repris correctement sur la liste affichée. Il peut y avoir une erreur de nom ou quoi. Et si la liste, si sur la liste aussi, on n'a pas d'autres personnes qui sont non éligibles. J'entends par là les mineurs d'âge, les policiers, les militaires, ainsi que les étrangers. Ça permet également de vérifier, de dénoncer auprès du président du centre ce genre d'enrôlement qui est illicite.
Et pour terminer, quelles sont les mesures prises par la CENI pour garantir la transparence de l'opération de révision du fichier électoral?
Alors, pour assurer la transparence de l'opération, la CENI accrédite les témoins des partis et regroupements politiques, observateurs nationaux et internationaux, ainsi que les journalistes, qui en fait assurent en quelque sorte la surveillance de l'opération. Et ces personnes accréditées doivent être mises de leur carte d'électeur pour accéder au centre d'inscription et suivre les opérations, mais elles ne peuvent pas interférer dans le déroulement de l'opération.
Et pour terminer, un message à tous les électeurs qui vous écoutent en ce moment, Monsieur Désiré.
Donc, j'invite les électeurs à aller au centre d'inscription le plus proche de leur résidence, dans leur commune ou groupement, parce que demain, ils voteront, là, ils se font enrôler. Un appel pathétique aux femmes, parce que le taux d'enrôlement jusqu'à présent est de 48% pour les femmes, 52% pour les hommes. Et la CENI a pris disposition pour faciliter l'enrôlement des femmes.
Bien, Monsieur Désiré Molekela, directeur chargé de la sensibilisation et éducation civique électorale à la CENI, nous vous disons merci et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie.
Merci d'avoir suivi le journal des élections, cette tranche qui vous donne des informations sur le déroulement du processus électoral et de l'enrôlement des électeurs à travers le pays. Jeudi, Daniel Kachama était au micro, Jean-Claude Siala à la mise en onde, Tati Mapoukou à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.